Bonjour à chacun. J'ai l'impression que l'atmosphère, elle reflète le temps. Bon, là, on ne voit pas, mais si vous regardez un petit peu par la fenêtre, c'est cette neige toute douce qui tombe et qui ne fait pas de bruit. C'est un petit peu comme du velours. Tout est calme, tout est paisible. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette atmosphère qu'on a ce matin dans la salle. La douceur du Seigneur, la paix du Seigneur, la bonté du Seigneur. Ce matin, j'ai intitulé mon sujet « Celui qui aime Jésus, alors c'est vaste ». Celui qui aime Jésus, ça peut tout dire et n'importe quoi, mais vous verrez, je vais vraiment cibler mon sujet. J'ai choisi ce sujet parce que le Seigneur me l'a mis à cœur, mais aussi parce que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est en tout cas le mien, parfois on est lent à comprendre. Peut-être que vous n'êtes pas concerné. Moi, je le suis. Parfois, on nous dit des choses, on les sait, on a compris, mais pour les mettre en application, c'est une autre paire de manches. Et des fois, on les met en application, mais pour les mettre en application dans la durée, c'est encore autre chose. C'est notre nature humaine. Et le Seigneur, il le sait. Il le sait, il a tellement compassion, il est tellement bon qu'il nous aide dans notre faiblesse. Et ce qui me rassure, c'est de voir que les disciples, qui étaient quand même proches de Jésus, presque 24 sur 24 pendant plus de 3 ans, eh bien, ils étaient aussi lents à comprendre. Et ce qui me rassure encore plus, c'est que Jésus n'hésitait pas de se répéter. Donc je me dis, c'est bon. En effet, Jésus nous connaît avec, il nous aide et ça fait du bien. Alors pour que j'entre un peu plus dans le concret, pour ceux qui ont vos Bibles, je vous propose de les ouvrir dans Jean 14. Et pour situer le contexte, on est à la toute fin du ministère terrestre de Jésus. C'est le dernier repas que Jésus passe avec ses disciples avant d'aller à la croix. Et c'est un moment privilégié où il donne beaucoup d'enseignements. C'est tous ses derniers enseignements. Donc c'est un moment sérieux, c'est un moment solennel, c'est un moment qui est vraiment lourd de sens. Ce n'était pas le moment où Jésus aurait pu prendre du temps pour dire des choses à la légère, même s'il n'a jamais parlé à la légère. Mais c'était vraiment un moment très particulier, parce que dans cette nuit-là, il allait être livré. Il allait subir tout ce qu'on sait à la croix, mais il allait aussi quitter la terre pour retourner au ciel. Il allait laisser ses disciples sur terre, sans lui. Alors, je vous propose de lire dans Jean 14 à partir du verset 15. On va lire de 15 à 26. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce Ce passage, il y a tellement de merveilles dans ce passage. Il est tellement, tellement riche. Et en même temps, ça parle de l'annonce du Saint-Esprit. Moi, quand je me suis retrouvée face à tout ce que Jésus enseignait là-dedans, je me suis dit, mais c'est tellement énorme, mais comment est-ce que je vais en parler? Qui suis-je pour m'attaquer à un texte pareil? Parce que prenez une fois le temps de le relire, puis essayez de sortir tout ce que vous pouvez. C'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est énorme. C'est énorme tout ce que Jésus dit là-dedans. Quand on prend le temps et décortiquer, c'est vraiment merveilleux. Et il y a tellement à dire que je suis obligée de cibler. Donc je vais vraiment cibler. Prenez conscience qu'il y a beaucoup plus à dire que ça. Je vais cibler sur 3 passages en particulier. Ces 3 passages où Jésus se répète. Parce que, vous l'avez peut-être déjà remarqué pendant la première lecture, par 3 fois, Jésus répète les mêmes éléments, c'est-à-dire le fait d'aimer Jésus, le fait de garder ses commandements. Il y a à chaque fois la mention des 3 personnes de la Trinité et à chaque fois, il y a un aspect relationnel avec Dieu. Dieu Père, Dieu Jésus, Dieu le Saint-Esprit, à chaque fois. Donc Jésus se répète, mais en plus, il y a une progression. Allez dans le premier passage, au verset 15 et 16. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Donc déjà là, vous pouvez voir que c'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, moi, mes commandements, c'est Jésus. Il va prier le Père et il va envoyer un défenseur, c'est le Saint-Esprit. On a déjà là la Trinité et on a déjà l'aspect de relation pour que le Saint-Esprit reste éternellement avec vous. Et on a le fait d'aimer et de respecter les commandements de Jésus et le fait d'aimer Jésus. Et tous ces critères, on les retrouve à 3 fois. Dans ce premier verset, quand Jésus dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements », je suis allée un petit peu décortiquer le texte en grec, et puis pour moi, j'avais un futur pour respecter. Donc ça voulait dire « Si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements ». Dans le sens, il y a une logique. Mais en allant un petit peu grailler plus loin, il y a des traductions qui le mettent à l'impératif. Si vous m'aimez, respectez, c'est un ordre. Donc j'ai bataillé avec ça pour vraiment comprendre, mais ça veut dire quoi? Et du coup, vu que maintenant je suis à l'école, j'ai la chance d'avoir des profs qui s'y connaissent mieux que moi. Et j'ai posé des questions, j'ai dit, mais ce verbe, c'est un impératif ou c'est un futur? Et puis en analysant, il y en a un qui m'a dit, bah, tu vois, moi je pense que c'est un futur à valeur impérative. Je trouve que c'est très... Waouh, je vais leur sortir. Comme tu ne tueras point. Dans les 10 commandements, tu ne tueras point. C'est un ordre, mais c'est un futur. Et là, c'est un peu la même chose. C'est pour dire que c'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux si vous m'aimez, respectez mes commandements ou vous respecterez mes commandements. Ça va ensemble. C'est la condition sine qua non. On ne peut pas m'aimer si on ne respecte pas mes commandements. Ça ne va pas. Et c'est ça, c'est ce sérieux-là que Jésus il veut faire ressortir là-dedans. Mais ce qu'il explique aussi, et ce qui est merveilleux, c'est que quand on entre dans cette démarche-là, le fait de respecter les commandements de Jésus, ça nous ouvre à la relation avec le Seigneur. Puisque si on respecte les commandements, quant à moi, dit Jésus, je prierai le Père qui vous envoie le Saint-Esprit pour qu'il reste avec vous éternellement. Ça va ensemble. Donc ce qui est important, c'est de connaître, mais les commandements de Jésus, c'est quoi? Parce qu'on peut être d'accord avec tout ça. Hein? Moi, j'aime Jésus, j'aime la parole, je la garde contre mon cœur, et puis c'est bon, j'ai le Saint-Esprit qui reste éternellement avec moi. Mais en fait, ce que Jésus il veut qu'on fasse, c'est qu'on plonge là-dedans, c'est qu'on aille méditer, mais c'est quoi les commandements? Alors, sachant que Jésus il vit de toute éternité, il vivait déjà avant la fondation du monde, ça veut dire que tout ce qui est écrit déjà dans l'Ancien Testament et qu'il a accompli, c'est toujours valable. Par exemple, les 10 commandements, tu ne tueras point, honore ton père et ta mère, ne convoite pas la femme de ton voisin, etc. Toutes ces choses-là, elles sont toujours actuelles. Ça, ça fait partie des commandements de Jésus. Mais il y a aussi aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, tendez la joue gauche ou droite, enfin selon de quel côté vous avez reçu le coup, tendez la joue de l'autre côté. Il y a des enseignements de Jésus qui nous demandent d'aller à contre-courant. Et quand on lit la parole, il faudrait pouvoir les recevoir, les découvrir. Quand on est en train de lire la parole, se mettre à la méditer puis de se dire « Mais moi, dans mon quotidien, ça veut dire quoi ?» Par exemple, j'en avais déjà parlé dans une autre prédication, mais il y a le sermon sur la montagne. Jésus, c'est dans Matthieu, les chapitres 5, 6, 7. Si une fois vous voulez aller vous y plonger, là aussi c'est de la bombe. Enfin, je crois que tout ça s'en est, mais... Le sermon sur la montagne, c'est quand Jésus commence par les béatitudes en disant « Heureux celui qui, heureux celui qui ». Et à la fin des béatitudes, il y a marqué « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus est en train de nous dire « Marchez à contre-courant. » Ça, ça fait partie du sermon sur la montagne. Il y a aussi le fait d'être sel et lumière. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand vous êtes en famille, par exemple, puis que vous avez des conversations bien houleuses, bien qui se frictionnent un peu, c'est de vous dire « Mais comment est-ce que je peux être une lumière là-dedans? Est-ce que j'ai été un instrument de paix là-dedans? Ou bien au travail ?» Comment gérer la colère, la convoitise, etc. Tout ça, c'est le serment sur la montagne. C'est là que Jésus dit aussi, ne regarde pas la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais enlève déjà la poutre qu'il y a dans ton œil. Et ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, Seigneur, je ne suis pas bien avec telle situation. Je ne suis pas bien avec les coups que j'ai repris, mais moi, c'est quoi ma responsabilité là-dedans? Et moi, quelle attitude? Est-ce que j'ai été en ton honneur quand j'ai réagi de telle manière? Toutes ces démarches-là, ça nous fait entrer dans les commandements de Jésus. En fait, c'est de la sanctification, c'est de la consécration. Dans le serment de la montagne, il y a aussi comment gérer la prière. C'est là que Jésus enseigne le Notre Père, par exemple. C'est là aussi qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter parce que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est toutes ces choses-là. Donc quand on commence à se les approprier et à se dire « mais dans mon quotidien, ça veut dire quoi ?» Là, on est en train de connaître, de garder, d'appliquer les commandements de Jésus. Et on n'est pas tout seul pour le faire, parce que Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il demeure éternellement, il est là éternellement. Il ne fait pas des va-et-vient, puis tu te dis « oh, ben, je reviendrai la semaine prochaine ». C'est du 24 sur 24. Le Saint-Esprit, il est avec nous 24 heures sur 24 pour nous aider dans notre faiblesse. Et plus on en est conscient, plus on fait appel à lui et plus on va de victoire en victoire. Donc un moyen d'appliquer ça, c'est de se dire, ben Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être qu'il y en a qui en ont encore. Il y avait la mode des bracelets avec le WWJD, What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Et d'avoir ça au bras, c'est bien. Il y a l'effet de mode aussi, mais de se dire, chaque fois que je suis dans une situation difficile, quand on a le temps d'être proactif, c'est dire, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment tu réagirais? Comment tu répondrais? Ça, c'est quand on a la présence d'esprit dans un moment de fragilité, de se dire, oula, Seigneur, au secours, viens m'aider. Et puis il y a des fois, on s'est repris un coup, une situation qui nous arrive en pleine face et paf, on a répondu de plus belle. Et c'est après. Seigneur, comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? Ça, c'est utile aussi. Même quand la situation, elle est derrière, c'est utile de se dire, mais comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? Parce que ça va m'enseigner pour la prochaine fois. Et ça montre qu'on est dans une démarche. On ne peut pas être parfait tout de suite. Et puis la perfection, elle n'est pas pour cette terre-là. Donc, c'est simplement, ça montre l'état de notre cœur. Ok, je reconnais, je me suis trompée, mais j'ai envie de faire mieux la prochaine fois, avec l'aide du Saint-Esprit. On va aller au deuxième verset où Jésus se répète. Donc dans Jean 14, toujours, au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. On a l'impression que Jésus redit la même chose. Il y a toujours les mêmes éléments. L'amour des commandements de Jésus, le fait d'aimer Jésus, les trois personnes de la Trinité, tout y est. Alors pourquoi est-ce que Jésus se répète? Eh bien là, il va un petit peu plus loin. Il est en train de dire le signe distinctif de celui qui m'aime. Ce qui montre qu'il m'aime, c'est parce qu'il aime mes commandements. On le reconnaît. On reconnaît à sa vie qu'il m'aime. Ça veut dire, quelque part, il nous dit, mais ok, quand vous avez compris que vous devez appliquer les 10 commandements, le sermon sur la montagne et tout le reste, même dans les épîtres qui suivent le ministère terrestre de Jésus, il y a tellement de commandements. En fait, il est en train de dire, ça ne suffit pas d'avoir juste compris puis appliqué une fois, mais c'est sur la durée. Il faut continuer. Il ne faut pas se lasser. Ça veut dire mettre un frein à sa langue, bénir ses ennemis, etc., etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mettre un voile devant nos yeux quand on a des images équivoques qui sont en train d'arriver, refuser d'écouter des choses qui pourraient nous souiller ou faire du mal, refuser de participer à des choses malsaines, garder son corps pur jusqu'à son mariage. C'est des choses basiques dans la parole, mais dans le monde où on vit, c'est pas si basique que ça, c'est difficile. C'est toujours aller à contre-courant. Mais quand on est dans cette démarche-là, et qu'on persévère, Jésus nous dit « Je me ferai connaître à lui ». Et ça, quand je vous disais que la présence de la Trinité est toujours là, ça c'est seulement par l'action du Saint-Esprit. Parce que ce verbe « connaître », il y a deux verbes en grec pour « connaître », ou en tout cas deux, qui sont utilisés le plus souvent. Il y en a un, c'est « ginosko », c'est « connaître par expérience ». C'est celui qui est utilisé aussi dans les relations intimes. Quand on dit Adam connu Ève ou un tel a connu, c'est ce verbe qui parle de connaissance. On se connaît par l'expérience. Tandis que là, je me ferai connaître, c'est un autre verbe qui est emphanizo, qui veut dire révéler, se montrer, manifester. Donc Jésus va se révéler. C'est comme s'il va enlever un voile pour qu'on puisse le voir. C'est le Saint-Esprit qui enlève un voile de notre compréhension, de notre cœur, de nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir Jésus. C'est que l'action du Saint-Esprit qui peut faire ça. Pour vous expliquer, je vais prendre l'exemple du couple. Ça fait 24 ans qu'on est mariés avec Reed. Je le connais intellectuellement. Je sais, parce que je connais sa biographie, je sais quand c'est qu'il est né, je sais où c'est qu'il a grandi, je connais sa famille, je sais quand c'est qu'il est venu en Suisse, je connais les circonstances qui ont fait qu'il est venu en Suisse. Je connais toutes ces choses-là. Mais je le connais aussi, Ginosko, je le connais par expérience. Parce que, à force de passer du temps avec lui, je le vois réagir. On partage des choses, je vois ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, parce qu'il me le dit. Et vous, vu que vous le côtoyez aussi, pas autant que moi, mais vous le côtoyez quand même, vous voyez aussi ses réactions. Vous savez quand il est content, quand il ne l'est pas, en général, vous le savez aussi. Parce qu'il y a des mimiques sur son visage qui ne... Voilà. Vous le connaissez par expérience, parce que vous le côtoyez, vous passez du temps avec lui et que vous le voyez vivre. Mais à un moment donné, à moi, il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit des choses que vous ne savez pas. Et il y a des choses même dans ses réactions que je suis la seule à connaître. Il y a des larmes que je suis la seule à connaître. Il y a des joies que je suis la seule à connaître. Il y a certaines réactions, certains sentiments, certaines émotions que je suis la seule à connaître. Il y a une vulnérabilité que je suis la seule à connaître. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a laissé cette vulnérabilité se manifester devant moi? C'est parce qu'il a éprouvé mon amour. Il l'a éprouvé, il sait qu'il peut avoir confiance. Il sait ce que je vais faire de ça. Il sait ce que je vais faire de ces émotions. Alors, il s'est montré tel qu'il est. Il s'est révélé à moi. Il s'est manifesté à moi, tel qu'il est, sans façade, sans masque. Et c'est un petit peu la même chose, ce que Jésus dit ici. À force de nous voir aimer ses commandements, les mettre en pratique, travailler, à force d'être un instrument de paix, à force d'essayer de lui ressembler, il éprouve notre amour. Et il se dit, moi je vais lui montrer une facette de ma personne qu'il ne connaît encore pas. Je vais lui permettre d'entrer dans une intimité avec moi qui sera exclusive. Quelque chose qu'il ne connaît pas et qui va le bénir. Parce que tout ce que Jésus nous demande, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour nous bénir. Et là, il y a vraiment un trésor d'intimité avec Dieu à saisir. De comprendre que je ne dois pas juste obéir à un Dieu qui est dur quand il me dit de respecter les commandements, mais en fait, Jésus m'offre une relation d'une extrême grande qualité avec l'aide de son Saint-Esprit, toujours. Et c'est quelque chose d'accessible pour chacun d'entre nous. C'est des choses auxquelles on doit aspirer. Ça devient tellement plus riche quand on se plonge dans la parole et que tout à coup, paf, on reçoit une révélation. Parce que notre amour, il grandit et ça nous donne de la paix, ça nous donne de la joie et ça nous permet d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas fini. Une troisième fois, Jésus, il en remet une couche. Au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Pour la troisième fois, Jésus semble dire la même chose. Il est en train de dire, « Mais en fait, vous devez persévérer, mais jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. » Mes commandements, il faut les garder, c'est un style de vie. C'est du long terme, c'est du long, long, long terme. Mais je vous ai dit, hein, les disciples, ils sont un peu lents à comprendre. Alors il y a Judas qui pose une question. Donc Judas, pas l'Iscariote, pas celui qui a trahi Jésus. Il dit, mais pourquoi nous? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Pourquoi? Pourquoi nous? Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus, il répond ça. Il dit pas, je me ferai connaître à vous parce que vous êtes les meilleurs, parce que nanana. Il réexplique la même chose. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que la relation avec le Père, puis pour connaître Jésus, il faut avoir une relation d'amour. Mais le monde n'aime pas Jésus. Le monde n'aime pas les commandements de Jésus. Et là, aujourd'hui, en 2018, on le voit beaucoup plus, encore plus qu'avant. Tout ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. On inverse les paradigmes, on fait n'importe quoi avec notre corps, on enseigne n'importe quoi à nos enfants. Quand on veut s'opposer, quand les parents veulent s'opposer à des enseignements erronés, ils peuvent être condamnés par la loi. Tout est sans dessus-dessous maintenant, complètement. Et Jésus nous dit que pour qu'il se manifeste, qu'il se révèle, qu'il nous envoie son Saint-Esprit, il faut avoir une relation d'amour. Et ce qu'il explique plus loin, c'est qu'en plus de ça, ses commandements, ils ne viennent pas de lui. Sa parole ne vient pas de lui, mais du Père. Tout ce que Jésus a dit, ça vient du Père. Et le Père, c'est la plus haute autorité divine. Et quand le monde refuse le Père, il n'y a pas d'amour. Alors, on va illustrer ça, puisqu'il y a marqué « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, on peut y voir la Trinité, et nous établirons domicile chez lui. » Imaginez une personne qui ne vous aime pas, quelqu'un qui vous méprise, quelqu'un qui vous humilie, quelqu'un qui dit toujours du mal de vous, vous proposez un truc, mais non, c'est nul, qui vous faites attention à votre personne, mais qu'est-ce que t'es moche? Vous proposez de faire une chose de telle manière parce que vous savez que ça va aller et puis la personne vous dit « mais non, on va faire autrement » puis elle fait tout foirer. Et puis elle fait du mal aussi à votre famille. Quelqu'un de vraiment mauvais. Est-ce que vous auriez à l'idée de prendre votre baluchon, d'aller frapper à la porte pour dire « Salut, je pourrais venir habiter chez toi ?» Tous les jours, de jour, de nuit, toute l'année, pendant beaucoup d'années. En fait, on va vivre ensemble, quoi. Ben, Dieu nous demande de l'aimer. Et il ne veut pas aller frapper à la porte de quelqu'un qu'il rejette. Parce qu'en plus, il nous a laissés libres de nos choix. Il ne veut pas nous obliger à l'accepter. Si vous m'aimez, moi je viendrai. Mais si vous ne m'aimez pas, vous êtes libre. Vous avez le droit de me fermer la porte. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais il y aura des conséquences. Mais si vous m'aimez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habiteront avec vous. Pas dans votre appartement, pas dans votre chambre, pas dans votre studio, mais dans votre être, dans vos compréhensions, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre personne. Et ça va vous transformer, ça va transformer votre famille, ça va transformer votre lieu de travail. Vous allez être influent sur la terre et dans les lieux spirituels. Parce que Jésus ne sauve pas le monde. Il sauve des personnes. Jésus n'est pas venu se révéler au monde d'un coup, tout le paquet ensemble, mais c'est individuellement. Chaque personne, une à une, une à une, une à une. Il frappe à la porte de notre cœur, à chacun d'entre nous. Si on l'aime, on ouvre. Si on ne l'aime pas, on n'ouvre pas. Je vais terminer ici. Ce qu'il faut se souvenir de cette prédication, c'est que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. C'est ce qu'il dit dans ce texte de Jean 14. Nous ne sommes pas orphelins. En toutes circonstances, vous pouvez vous dire ça. C'est ce que je me dis souvent quand je viens prêcher, parce que j'ai un petit peu les chocottes. Il y a des fois, je suis sûre de moi, je me dis « ça va aller ». Mais souvent, je me dis « mais ça ne va pas aller, mais c'est nul, mais si ». Enfin, j'ai toute une trottinette dans la tête. Et je ne sais pas si je vais savoir dire les choses, même si elles sont écrites sur mon papier. Je ne sais pas si je saurai les formuler. J'ai plein de questions. Et à chaque fois, je dis mais je ne suis pas orpheline. Et je me le rappelle, et je le dis, et je le rappelle au Seigneur. Lui, il le sait, mais ça me fait du bien de le lui rappeler. Je ne suis pas orpheline. Saint-Esprit, tu es là. Alors je te demande ton onction. Alors je te demande ton aide. Je te demande ton soutien. Moi, je vais faire ma part. Mais fais la tienne. Je t'en prie, fais la tienne. Celle que je ne peux pas. Parce que c'est écrit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, je crois que ta parole, elle est vraie. Et dans toutes les circonstances où vous en avez besoin, rappelez-vous ça. Vous n'êtes pas orphelin. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Il est là pour nous aider à marcher contre-courant. Et c'est des très beaux témoignages quand les gens réussissent à marcher à contre-courant. On a un super beau témoignage, c'est les deux derniers mariages qu'on a eus dans l'église. Ces deux jeunes gars, je ne vais pas mentionner leur nom parce que c'est enregistré et que ça va sur Internet, mais ces deux jeunes gars qui se sont mariés, mais qui ont décidé de rester, de se garder purs, de respecter leur future épouse jusqu'au jour de leur mariage, de faire les choses dans l'ordre. Et il faut les voir maintenant. Il faut voir comme ça brille sur leur visage. Ils sont épanouis. Il y a les circonstances qui se sont aplanies en leur faveur. C'est des jeunes gars qui aiment le Seigneur, qui ont décidé de marcher à contre-courant, de respecter les commandements du Seigneur, et on voit déjà les fruits maintenant. Jésus nous dit de persévérer jusqu'à une profonde intimité, et il nous offre cette intimité de se manifester, de se révéler à nous. Et ce qu'il nous demande, c'est d'en faire un style de vie, avec cette promesse que le Père, que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit seront toujours, toujours, toujours avec nous. Amen.